Bonjour à toutes et à tous. Parler patrimoine, culture, art ou environnement, c'est l'objet de ces émissions que vous attendez, j'espère, avec impatience. Après bien des interventions sur le château de Sully, la cité des climats et vins de Bourgogne, l'âge du bronze avec la remarquable exposition au musée de Chalon-sur-Saône, après les sites archéologiques des Bollards à proximité de Nuit-Saint-Georges ou de l'évêché d'Autun, après avoir parlé de restauration, de leur financement lors de l'émission sur la très belle église romane de Varennes-Larconce, de quoi pouvons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, je vous propose de nous intéresser à l'acte même de restauration, de vous emmener en plein travaux, car restaurer n'est pas simple. C'est pourquoi je vous propose d'en savoir un peu plus grâce au témoignage de ceux qui s'y sont attelés. Il n'y a probablement pas de formule magique, mais du savoir-faire que nous allons maintenant découvrir. Pour cela, nous rencontrons Aubert de Villaine, très souvent, le plus souvent, connu par le célébrissime vin dont il gère tout le processus, depuis le travail de la terre, ici en Bourgogne, on dit climat, jusqu'au moment où il permet sa découverte par les plus grands connaisseurs. Mais cela, ce vin, c'est bien sûr un patrimoine. Et si c'est un patrimoine, on ne s'étonnera pas qu'Aubert, qui l'élève avec compétence, avec une recherche de la perfection, le résultat le prouve, porte également ces mêmes qualités au service d'un autre patrimoine qui requiert ces mêmes qualités. Et nous allons tout de suite pouvoir le constater. Je veux ici parler de la sauvegarde de l'abbaye de Saint-Vivant. Bonjour Aubert.
Bonjour Gérard.
Merci de nous recevoir en cette abbaye. J'aurais besoin d'en savoir un peu plus. Si on m'a bien informé, vous avez entrepris ce travail colossal de restauration de cette abbaye, ce qui sous-tend qu'elle devait être dans un état inquiétant et qu'il vous a fallu une attention particulièrement efficace. D'abord, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire et peut-être que vous allez vouloir nous faire un petit rappel historique de l'opération.
Je vais peut-être d'abord vous dire quelques mots sur l'histoire même de l'abbaye. Il faut se reporter au Xe siècle, autour de 900, de l'an 900, à l'époque où les Vikings débarquaient dans l'ouest de la France et ravageaient en fait toute cette partie de rivage de l'ouest, et notamment pillaient les monastères qui étaient là où se situait la richesse en fait. Donc à cette époque-là, un monastère du côté de ce qu'on appelle aujourd'hui les Sables d'Olonne, à Olonne, est pillé par les Vikings et les moines s'enfuient. Et après de nombreuses pérégrinations, arrivent en Bourgogne et sont recueillis, on peut dire, par le comte Manassès et son épouse Hermangeard, qui tiennent en fait la forteresse de Vergy, Manassès étant un féal du duc de Bourgogne de l'époque. Et ce comte Manassès offre un terrain pour construire un monastère, ce qu'ils font, donc après 900. Et ce monastère médiéval dure avec nombre de réparations, de reconstructions, jusqu'au XVIIIe. Et au XVIIIe, l'abbé commendataire de l'époque décide de raser le monastère médiéval et de reconstruire un monastère plus moderne. Je crois d'ailleurs que c'était le cas à la même époque d'autres monastères également. Il y a un appel d'offres qui est lancé. Et c'est un architecte connu de l'époque, qui s'appelle Caristi, qui est choisi et qui fait les plans.
Mais j'ai entendu dire que Guillaume de Volpiano avait également eu une influence ici à Saint-Vivant.
Guillaume de Volpiano, qui a été un grand réformateur de l'ordre bénédictin, a introduit l'abbaye de Saint-Vivant dans le giron clunisien. Saint-Vivant devient un prieuré de Cluny, un grand prieuré de Cluny.
Mais je crois qu'à la Révolution, le monastère est déclaré bien national et acheté en 1796 par le maître de forge de Pelleret, Antoine Mollerat. Qu'est-ce qui s'est passé à la suite de cette acquisition?
Mollerat vend tout ce qui est vendable, c'est-à-dire les poutres, les tuiles, tout ce qui est vendable. D'ailleurs, un certain nombre de pierres également. On retrouve partout dans les villages alentours des traces en fait de ce qui a constitué l'abbaye. Le monastère se dégrade et devient une véritable ruine. Même si vous ne pouvez pas la voir, puisque nous sommes en radio.
Effectivement, à la radio, on ne peut pas voir les photos qui nous sont montrées, mais c'est un véritable désastre. Il y a des pierres partout, les câbles sont quasiment comblés, on ne peut plus y accéder ou très mal. C'est une catastrophe architecturale, ou en tout cas pour la conservation d'un bâtiment qui ne demandait rien d'autre que de pouvoir servir à ceux qui l'ont construit, ou tout du moins à leurs successeurs. La charpente avait été démontée et la grille d'entrée a fini au château de Villarfontaine. Au cours du XIXe siècle, si j'ai bien compris, les propriétaires se succèdent. L'édifice est à l'abandon et voit ses bâtiments se dégrader de plus en plus. Le lieu est envahi par la végétation et sert de carrière de pierre et les arbres poussent au milieu de tout ce fatras. En 1828, Félix Marais rachète les restes et les revend en 1854 à Saint-Père, un architecte ayant château à l'étang. Une anecdote intéressante, quelques jours après l'élection de Jean XXIII, le 28 octobre 1958, un sceau de bulles en plomb de Jean XXII, pape de 1316 à 1334, est trouvé sur le mont de Vergy. Mais revenons à Aubert de Villene. Est-ce que vous pouvez maintenant nous parler de vos interventions sur ce site ?
Nous nous trouvons ici au niveau des caves supérieures. Les gravats montaient à une hauteur qui est au-delà d'une hauteur d'homme, avec des arbres qui poussaient, etc. Et il a fallu totalement la dégager. Et on ne pouvait le faire qu'à la main, parce qu'en dessous, il y a des caves dites inférieures, des caves du dessous, qui étaient tenues par des étais, puis qu'elles étaient déjà affaiblies.
Je vous interromps une seconde, parce que j'aimerais savoir, mais qu'est-ce qui vous a motivé ? Parce que quand on voit les photos que vous montrez, c'est quasiment mission impossible. Alors pourquoi s'atteler à une telle tâche de reconstruction à partir bien évidemment de dessins de l'époque qui permettent d'avoir une idée de ce qu'il y avait avant ? Mais c'est une mission impossible.
C'est une mission qui est devenue un devoir en fait. C'est très rapidement, nous avons racheté ce site en 1996. Il était à vendre et le mot de Saint-Vivant tenter les propriétaires de l'époque pour une utilisation qui n'aurait pas été, disons, très légale. Donc nous avons décidé de le racheter pour protéger ce nom de Saint-Vivant, 96. Et peu à peu, nous avons réalisé, moi-même et quelques autres personnes, que nous avions entre les mains quelque chose qui était précieux, qui signifiait quelque chose dans l'histoire viticole bourguignonne, l'histoire bourguignonne tout court, mais aussi l'histoire viticole, et que ce serait dommage de la laisser totalement périr. Et c'est là où nous avons commencé un travail de sauvegarde, que nous avons commencé d'abord avec Rempart, mais il s'est avéré très vite que les travaux qu'on pouvait réaliser avec Rempart étaient infimes par rapport à ce qui devait être réalisé. Et c'est là où nous avons eu beaucoup de chance, parce que réalisant bien nous-mêmes tout le lien qu'il pouvait y avoir entre l'abbaye de Saint-Vivant et la côte viticole, puisque ce sont ces moines auxquels on avait donné énormément de terres du côté de Vaune et de Vougeot, qui ont créé notre viticulture bourguignonne telle qu'elle est aujourd'hui. Donc il y avait un lien fort avec la côte viticole, et nous avons pu intéresser assez vite, en fait, et ça a été une divine surprise pour nous, parce que je ne m'y attendais pas. Nous avons pu intéresser d'abord une fondation américaine qui nous a énormément aidés, qui pendant 5 ans a fourni les fonds nécessaires pour qu'on puisse entreprendre des travaux, des réels travaux, avec des entreprises spécialisées dans les monuments historiques, puisque nous sommes dans un monument historique. Et on a pu vraiment démarrer des travaux à ce moment-là sérieux.
Nous sommes aujourd'hui reçus à l'abbaye Saint-Vivant par Aubert de Villene, qui a dédié une grande partie de sa vie à la sauvegarde et à la restauration de ce monument. Donc vous avez dû vous entourer de compétences, c'est-à-dire en fait je pense d'architectes du monument historique, etc. Mais vous dites que ce monument est un monument historique, donc il est soit classé, soit inscrit, ou peut-être classé, je pense. Il est inscrit. Donc vous avez travaillé avec la DRAC, n'est-ce pas, avec les architectes des monuments historiques, avec les conservateurs. Alors, une petite question. Souvent, on me dit, ah oui, mais alors faire classer un monument ou l'inscrire, c'est bien, mais quand il faut passer aux travaux, c'est plus compliqué parce qu'on ne fait pas ce que l'on veut, c'est difficile. Quelle est votre véritable expérience ?
Alors, le monastère était inscrit à l'inventaire, hein, il était inscrit. Avant même que nous le rachetions. Et il y a eu une coïncidence, tout à fait incroyable. J'ai rencontré un jour, chez des amis, un architecte qu'on me présente, un architecte qui me dit « je suis architecte du patrimoine ». Nous parlons, bavardons, et il me dit « je connais un peu la Bourgogne parce que j'ai fait mon mémoire pour le diplôme d'architecte du patrimoine sur l'abbaye de Saint-Vivant ». Incroyable. J'ai travaillé sur l'abbaye de Saint-Vivant. C'était extraordinaire. Et il a bien voulu prendre en charge le travail de sauvegarde. Et ça, c'était en 99. Nous avons racheté en 96. Nous avons commencé à travailler en 99. Et je crois que c'était en 2000 où Christian Laporte, donc, qui est actuellement président des architectes du patrimoine, d'ailleurs, a repris ce chantier. Et malgré que son cabinet soit situé à Clermont-Ferrand, il est toujours notre architecte et tous les 15 jours, il est là pour surveiller les travaux. Nous n'aurions jamais pu faire ce que nous avons fait sans le travail réalisé, travail souvent silencieux, mais toujours extrêmement dévoué des bénévoles, des très nombreux bénévoles qui nous accompagnent sur les chantiers et qui, dans les événements qui se produisent à l'abbaye déjà, et autour de l'abbaye, ont été extrêmement précieux, et comme par exemple André qui nous a accueillis tout à l'heure, je voudrais leur dire merci.
On peut saluer votre ténacité au service du patrimoine, et tout spécialement de cette abbaye. Ce que vous allez laisser aux générations futures. Vous avez passé une grande partie de votre vie à restaurer ces bâtiments, en assumant toutes les difficultés, les recherches de solutions, les recherches de financement, et pour vous entourer des meilleurs prestataires partenaires possibles. 1999-2025, cela fait 26 ans. Et vous n'êtes peut-être pas encore au bout de l'opération pour faire retrouver une vie à ces édifices.
Non, je vous rassure, nous sommes au bout. Des travaux de restructuration, des vrais travaux de sauvegarde, c'est terminé. Il reste encore quelques travaux extérieurs de modelage de l'environnement, en fait, pour que les travaux soient effacés, en fait, la trace des travaux soit effacée, mais c'est quasiment terminé. C'est quasiment terminé. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, Gérard, dans un an, deux ans maximum, nous pourrons donner le site à la visite. Donc nous sommes quasiment terminés.
Vous précédez ma question en disant, mais finalement, maintenant que vous avez fait un travail formidable, vous pensez à une utilisation à partir du moment où ça pourrait être ouvert au public, utilisation, je ne sais pas, pour des conférences, des concerts, comment vous voyez cela ?
Alors, il y a déjà une utilisation qui a déjà été essayée et réussie, c'est le concert. Dans le cadre du festival Musique et Vin au Clos-Vougeot, nous avons eu déjà pendant quatre ans, chaque année, un concert dans ces caves supérieures qui ont une acoustique formidable. Les musiciens adorent l'acoustique ici. Donc c'est déjà une utilisation que nous espérons non pas développer énormément, mais il y aura certainement des concerts. Par ailleurs, peut-être expositions. Conférence. Il y a eu une conférence il n'y a pas très longtemps sur la spiritualité et le vin, qui était tout à fait intéressante. Actuellement, nous sommes en train de mettre en place un comité de réflexion sur la gestion du site Travaux Finis, et nous allons réfléchir à toutes les activités qui pourront être accueillies ici. Nous voulons le faire de manière très réfléchie et adaptée au site. Voilà, ne rien faire d'exagéré, pas de très grandes manifestations. Bon, il y a des idées extraordinaires. Par exemple, vous savez que le site de Vergy, la forteresse de Vergy, a donné lieu à des opéras, à des pièces de théâtre, etc., à cause de la fameuse histoire du cœur mangé de la châtaigne de Vergy. Voilà, ça c'est, et Donizetti, notamment grand compositeur italien d'opéra, a composé un opéra qui s'appelle, je crois, La Châtelaine de Vergy, dont Stendhal rencontre dans ses voyages, en fait. Et il y a une idée qui est là, peut-être pouvoir donner la Châtelaine de Vergy devant l'abbaye, sur cette grande esplanade qui est devant l'abbaye. Peut-être un jour arriverons-nous à le faire, j'en sais rien.
Merci Aubert. Saint-Vivant, Donizetti, Stendhal. C'est extraordinaire, et ce lieu que vous avez retrouvé, fait renaître, est un lieu non seulement historique, mais un lieu magique quasiment. Vous avez une succession de rencontres qui sont stupéfiantes, qui interpellent. Ce sont des signes quelque part sur une réussite qui était attendue de votre part, me semble-t-il en tout cas.
Tout à fait, ça a été une suite de divines surprises. Je parlais de cette fondation américaine qui nous a aidés au départ. Ma femme n'y est pas pour rien d'ailleurs. Et ensuite, le flambeau a été repris par des amis qui ont une activité très importante en Extrême-Orient et qui ont organisé pour nous des dîners dans diverses grandes villes d'Extrême-Orient où nous avons pu lever de l'argent pour continuer les travaux et arriver au bout de ces travaux. Je suis extrêmement reconnaissant à toute cette chaîne de d'amitié et de compétences et qui se sont mises ensemble pour réaliser ce travail. J'inclus là-dedans bien sûr les entreprises qui ont nous travaillons toujours avec les mêmes entreprises aujourd'hui que celles avec lesquelles nous avons commencé, et tout le monde a le sentiment de travailler à une grande cause.
Merci Aubert. Merci pour ce témoignage qui dépasse l'histoire d'une restauration. Restaurer l'abbaye de Saint-Vivant, c'est surtout s'engager dans un projet un peu fou. Mais comme beaucoup de restaurateurs et de restaurations de grands édifices l'exigent. Pour cela, ce n'est pas un grain de folie qui est nécessaire. C'est l'appel à des valeurs qui dépassent notre histoire humaine pour s'inscrire dans l'histoire des siècles. Aussi, il faut remercier ici Aubert de Villene et tous ceux qui consacrent une grande partie de leur vie à sauvegarder ce patrimoine, souvent si durement établi par nos prédécesseurs. Une légende des siècles à l'usage du patrimoine, peut-être. C'est en tout cas une légende des siècles qui s'écrit à chaque fois que l'on sauve un bâtiment, une église, un lieu d'histoire. Merci Aubert pour votre témoignage.
Merci Gérard et merci RCF.
Cette émission se termine, je vous remercie et je remercie tous les auditeurs de leur attention et vous invite à poursuivre ces moments avec nous sur RCF en Bourgogne. À bientôt.